Il en est à sa première visite dans nos studios dans l'émission du matin. Il était mon collègue à Énergie, il est maintenant mon collègue au 93. Il a un prénom, deux noms de famille.
Et Philippe. Tu ne connais toujours pas son prénom.
Ben oui, c'est Philippe, je l'ai vu sur la feuille. Philippe Frédéric Comeau est en studio, salut!
Salut Steph!
Bienvenue en studio.
Ben merci, c'est un hommage, c'est un honneur.
Ah oui, oui.
C'est un hommage.
Hey, mais c'est donc bien gentil, c'est ta blonde qui nous a acheté
ben oui,
des beignes.
Oui.
Et donc, mais fine.
Mm-hmm. Elle veut que son chum soit aimé par ses collègues.
C'est vrai. Ben...
Ouais, on n'est pas achetables, nous autres.
Mm. Puis elle, travaille où?
Elle, travaille pour du télétravail.
OK. Ouais, ouais. Fait qu'elle peut pas amener de beignes à personne.
Mais non, c'est, pis c'est pour vrai. Ça y prendrait une journée faire le tour là, de ses collègues. J'ai suggéré, ça va être plus simple de ton côté. Puis si tu te plantes dans ta chronique, ben au moins tes collègues vont avoir des beignes.
C'est quoi? C'est exactement, on va être comblés. Un petit cadeau, des fois, ça fait toute la différence. Mais sérieusement, hier, tu étais au palais de justice. Ça fait quand même plusieurs années que tu fais ce job-là.
Oui.
Est-ce que c'était une des pires journées que tu as vécues au palais de justice?
Parmi les pires, ouais.
Ouais.
Oui. Et ça faisait longtemps que je n'y étais pas allé pour une cause importante comme ça. Puis avec la COVID, tout se faisait par vidéo, visioconférence. Là, on était à la maison sur Teams, puis on suivait les procédures. Là, c'est le retour en salle d'audience pour les familles des victimes aussi, les familles des accusés, les proches. Fait que c'est des moments qui sont assez émotifs, puis... Il faut se distancer de ça comme journaliste parce qu'il faut se concentrer sur les faits, faut noter ce qui se passe. Mais je peux t'avouer qu'à la fin de la journée, là, je réfléchissais à ça puis je me disais que je venais de vivre une journée assez assez difficile au niveau émotif. Puis je pense surtout aux familles des deux côtés. T'sais, moi, je les connais pas nécessairement, mais ça vient nous toucher de près ou de loin parce que des cas d'alcool au volant, je pense que tout le monde dans son entourage, pas au même niveau, pas à la même intensité, mais on a tous une histoire ou presque associée à quelqu'un qui a pris le volant puis qui avait trop bu, ne serait-ce que parce qu'il s'est fait arrêter. Il est peut-être pas arrivé rien de grave, mais dans ce cas-là, c'est le pire qui est arrivé. Écoute, une famille de quatre qui a été décimée, puis le père d'un des enfants le dit aussi, Jean-Dominique Lemieux, à plusieurs reprises, dit « c'est aussi une autre famille qui est détruite, celle de l'accusé mm-hmm. ». Tu vis tout ça en même temps pendant 4 heures concentrées. C'était vraiment quelque chose de particulier.
Oui, puis vous le vivez d'une façon bien différente parce que moi, j'ai déjà assisté à des témoignages, à des récits. Par exemple, que ce soit des agressions physiques, des agressions sexuelles, t'as quelqu'un qui te raconte, par exemple, comment s'est passée l'agression. C'est une chose. Mais là, c'était complètement différent parce que vous avez vu ce qui s'est passé en images. Comment dure de temps tout le collage vidéo auquel tu as assisté hier?
Les vidéos en tant que telles, toutes les séquences ensemble, là, c'est peut-être une dizaine, quinzaine de minutes. Là, on a des heures de vidéo, mais on en a diffusé juste quelques segments. Et pour remettre les gens en contexte, ce qui est assez fou là, de ce qui s'est passé hier, c'est qu'habituellement, cette étape du processus judiciaire-là, c'est l'enquête sur remise en liberté. Habituellement, la défense, automatiquement ou presque, va demander une ordonnance de non-publication et le juge est obligé de lui accorder. Ça fait en sorte qu'on peut pas vous parler des témoignages, on peut pas vous parler des éléments qui sont présentés parce que d'un côté, t'as la couronne qui s'oppose à la remise en liberté et qui veut présenter au juge la situation et prouver pourquoi l'accusé doit rester en prison pour la suite des procédures. Et de l'autre côté, t'as la défense qui tente de le faire sortir de prison en attendant la suite des choses.
Et l'ordonnance de non-publication est souvent accordée à cause du fait qu'il est possible pour l'accusé de demander à avoir un procès devant un jury.
Oui.
Et on veut pas que le jury soit contaminé par des éléments de preuve. C'est pour ça que, automatiquement, tout est fait dans le secret, normalement.
Ce qui est exceptionnel là-dedans, Steph, et t'as totalement raison, c'est que c'est la couronne là, qui demandait à ce que il y ait une ordonnance pour éviter de contaminer un éventuel jury. Et la défense, elle dit non, nous on veut que le public soit totalement informé de l'histoire. Et là, il y a eu un petit débat et le juge s'est même tourné vers les médias parce que semble-t-il, en vertu d'une décision de la Cour suprême, les journalistes, on a notre mot à dire. Donc, on nous a invités à aller se consulter, les journalistes qui étaient sur place à l'extérieur, et il a fallu qu'on prenne une position. Et la position qu'on a prise, c'est celle que le juge a adoptée aussi, puis il nous l'a dit, il a dit « je pense la même chose », c'est qu'on a pu voir les vidéos, mais on ne peut pas les diffuser dans le public. Donc, il y a aucune chance qu'on vous transmette ces images-là, mais ce qu'on a vu, on peut vous le décrire.
Qu'est-ce que ça donne à la défense dans un cas comme celui-ci, concrètement, de choisir de diffuser les images, contrairement à ce qu'on voit habituellement? Est-ce que tu as une idée, toi, de cette raison-là?
On aura l'occasion de poser la question à l'avocat de la défense, Maître Montminy, mais pour le moment, mon interprétation, c'est qu'on veut montrer le côté humain de l'accusé, parce qu'il y a les parents de l'accusé qui sont allés témoigner. Éric Légaré a aussi témoigné en sa faveur, ben en sa faveur, mais il a été contre-interrogé aussi, mais il a témoigné, donc je pense que c'est l'objectif.
Ça pourrait être ça.
Et moi, ce que je comprends là-dedans, puis ça, c'est mon analyse à deux cents, là, j'y connais rien, je suis pas aussi bon qu'Isabelle Mathieu, mettons, là, qui est là depuis des années, mais tout porte à croire là, qu'il y aura un plaidoyer de culpabilité éventuellement.
Oui, absolument. Mais par contre, au prononcé de la sentence, en ayant, dès le départ, dès à l'enquête, il sait très bien qu'il sera remis en liberté, là. T'sais, tout ça, hier, là, n'était qu'un spectacle, il sera jamais remis mise en liberté, il y en est mort quatre. Ça arrivera pas, là.
C'est un récidiviste.
Fait que, mais par contre, on va vouloir démontrer, lorsque la sentence sera prononcée, qu'il a déjà fait plusieurs pas vers la réhabilitation, le regret,
ben, juste
le remords, le ressenti.
Je veux pas te couper, là, mais juste entendre dire que Éric Légaré dort mal en prison parce qu'il pense constamment aux familles. Ça fait partie du spectacle, peut-être. Peut-être que c'est vrai, mais...
Maintenant, je trouve ça, je suis content que tu me dises ça, ça je le savais pas, que les médias vous étiez parlé à l'extérieur pour dire, OK, on veut voir les images, on va les décrire. Est-ce que pour le bien public, tu dis, puis on l'a vu là, à la télévision, il y a la Société de l'assurance automobile du Québec qui a souvent fait des messages percutants sur justement des accidents de la route qui ont causé la vie à ben du monde.
La mort.
Je sais pas si vous vous souvenez, la mort de ben du monde. Je sais pas si vous vous souvenez, les jeunes là dans Lotbinière, il y avait un petit char blanc sport, ils sautaient une bosse, là, pis se filmait, mm-hmm. Il y avait débarqué un des passagers, puis le char a fait des tonneaux, ils ont fait une tonne avec ça, oui. Puis les jeunes dans le char sont morts. Tu sais, on a montré ces images-là qui étaient très difficiles. Également, toujours dans Lotbinière, je crois, il y a des panneaux sur le bord des rues où on a il y a entre autres une place, il y a quatre photos de jeunes adultes qui sont morts sur la route et on a leurs visages qui sont là.
Ça fera plus. Il y a un film qui avait été fait 2012-2013, c'était pas un producteur qu'on connaissait ou un réalisateur. Puis c'était plusieurs histoires comme ça sur l'alcool au volant. Autant des gens qui en sont décédés que, par exemple, quelqu'un qui est maintenant paraplégique ou des victimes, puis des gens qui ont conduit avec... Ça vous dit rien, ça?
Non, ça me dit rien, je me souviens pas. Mais est-ce
c'est
que donc...
Je me demande si c'est
pas l'Arcan, c'est ça? Il y a un documentaire.
Je suis pas mal sûr que c'est pas l'Arcan,
OK, est-ce que, toi, quand tu vois les images...
Dérapage.
Oui, appelez ça. C'est est-ce ça. Que quand tu vois les images, toi, ça doit être saisissant, là, les images de l'accident.
Ça donne froid dans le dos parce que tu sais que, et en tout respect pour les familles qui ont eu à le vivre, là, je le souligne d'ailleurs, il y avait la famille de l'accusé, la famille des victimes, et il y a un des pères qui a quitté. Là, tu sais, il y a eu un échange de regards avec un des enquêteurs qui est dans la salle d'audience parce qu'on savait ce qui s'en venait. Là, c'est la couronne qui a présenté les séquences vidéo. Puis on a tout de suite compris entre les deux là que c'était trop insupportable pour lui d'assister à ça. Il a quitté. Il y a d'autres membres de la famille des victimes qui ont quitté, qui n'ont pas voulu assister à cette scène-là. Et je dirais, ça donne. C'est un moment où tout se fige. Tout le monde comprend la gravité de ce qu'on va voir, c'est-à-dire des gens mourir sous nos yeux. Tu sais, tu regardes les nouvelles, des fois, t'es loin de tout ça, tu vois ça du coin de l'œil, tu prends pas toute la mesure de la gravité de la chose. Là, on en parle depuis un mois, ça touche des enfants, l'alcool au volant, c'est ultra sensible comme sujet. Et t'as les parents pour qui la vie a complètement changé ce jour-là, qui sont juste derrière toi en train de sangloter, puis tu pars la vidéo. Puis il n'y a pas un mot.
Est-ce que c'est... quel est le fil des événements, tout ça? Tu parles d'une vidéo au total d'une dizaine de minutes. Ça commence où? Parce que l'accident dure moins d'une minute. Là, ça dure quelques secondes.
Mais c'est qu'on fait le fil des événements. On relate... Tout l'après-midi d'Éric Légaré. Lui a commencé, ou en tout le moins ce que les policiers ont montré, vers 13h30, lui, il est au bar du pub Parvis. Il y a la caméra de sécurité qui capte son après-midi là-bas. On calcule, selon les enquêteurs, qu'il a pris 7 verres de vin, 3 shooters, entre 13h30 et 17h, 17h20. Et tu vois, là, au fur et à mesure, parce qu'on montre plusieurs séquences de cette captation, de cet enregistrement-là, et au fur et à mesure, tu vois qu'il commence à être plus chambranlant, à tituber. Tu sais, quand, je le disais hier aussi avec d'autres collègues, mais tu sais, quand tu passes une veillée avec tes chums, tout le monde a bu, puis t'en as pas vu un se lever debout encore, puis il y en a un qui se lève, puis il est chambranlant, là. Tu vois qu'il est pas solide sur ses pieds, là. Et il faut qu'il se tienne sur une chaise. Ben, c'est un peu ça.
Okay.
Éric Légaré, au moment où il sort du pub du Parvis, il n'est pas accompagné, il est là seul, donc passe l'après-midi à boire.
Mais toute l'après-midi, il est au bar, il n'y a personne assis à côté.
Il y a d'autres clients qui ne le connaissent pas. Les policiers disent avoir parlé à des clients témoins qui ne le connaissaient pas, mais qui ont discuté avec lui au courant de l'après-midi. On n'a pas ces témoignages-là, ça va peut-être être présenté plus tard. Et là, il sort. Et là, on passe à une autre caméra de sécurité. Ce qui est aussi fascinant, c'est que tout est filmé. On est capable de le retracer partout.
Là, il est dans le bar, puis il s'en va. Il est pas mis dehors, il s'en va par lui-même.
Il s'en va, il quitte.
Il paye sa facture.
Oui.
Tu le vois faire.
93$. On a même le montant.
Le montant. Ouais. OK, donc il a pris une bouteille de vin, puis là, c'est les verres de shooter. Est-ce que il y a quelqu'un qui intervient au niveau de ses capacités?
Personne.
OK. Est-ce que... OK. Parfait, je comprends bien. Et là, il sort dehors, et il y a d'autres caméras qui le suivent dehors. Est-ce que, dans ces images-là, il semble être quelqu'un en état d'ébriété avancé?
C'est sûr que, de mon point de vue, je connais l'histoire. Je suis peut-être plus attentif au comportement du gars. C'est le principal intéressé de la vidéo. Ouais. Tu marches sur la rue Saint-Joseph, toi, tu vas peut-être pas... En tout cas, je vais y arriver là où ça m'aurait peut-être sonné des cloches. Là, mais oui, écoute, c'est difficile. Il est pas capable d'entrer dans sa voiture au début. Tu sais, quand tu donnes une swing et tu passes dans le vide pour pogner ta poignée de porte, là, c'est un peu ça qui est arrivé. Puis,
c'est vrai?
Ouais, on est en fin d'après-midi, un jeudi, il fait beau. Les gens marchent, tu vois, il y a beaucoup de monde là, qui circule, mais tout le monde va qu'à ses occupations.
Lui, il est parqué le long de la rue, là,
il est parqué juste en avant de l'église, okay. Sur la rue Saint-Joseph, en parallèle. Mais il y a genre 4 pieds d'espace derrière. Tu peux mettre 3 motos là, cordées, une en arrière l'autre, mais en avant, il y a un véhicule.
Okay.
Il réussit à embarquer dans sa voiture, dans sa Subaru. Puis je comprends pas pourquoi. Ben peut-être parce qu'il est complètement pacté. Il essaie pas de reculer pour quitter. Non, lui, il essaie d'avancer, puis tout ce qu'il fait, c'est qu'il entre dans le véhicule en avant, au point où même l'autre véhicule en avant de celui qui est stationné devant son véhicule est aussi endommagé. Et il passe, les policiers ont
donc
calculé...
Donc, il frappe le véhicule devant le sien, qui va frapper l'autre véhicule en avant.
Puis, pas juste une fois, là, ça se fait pas une grande force d'impact, mais il pousse. Ça dure 3 minutes et demie. Puis il y a des gens interloqués dans le café d'où la caméra de sécurité est installée qui semblent se poser des questions. Puis là, c'est pas clair si on a contacté les policiers à ce moment-là. Chose certaine, dans la séquence entre le moment où il quitte le pub du Parvis puis l'accident, il y en a du monde qui ont appelé la police. On le cherchait. Avant qu'il y ait l'impact, là, on cherchait un Subaru blanc Outback. On le cherchait depuis déjà une bonne dizaine de minutes, mais il était parti. Mais 3 minutes, Steph, à niaiser dans un stationnement parallèle. Il y a du monde qui marche des deux côtés de la rue. Moi, je veux pas donner de blâme à personne parce que quand tu sais pas puis que t'es concentré sur tes trucs, il y a aussi peut-être...
Ouais, mais t'as pas eu, là. C'est parce qu'il y a eu de nombreux appels à la 911 pour signaler ce gars-là. Oui. Mais en même temps, puis je le dis souvent, c'est bien beau de... Puis on a un ami, nous autres, qui a fait ça à un moment donné. Il a vu quelqu'un en état d'ébriété sortir d'un restaurant, puis il a trouvé ça louche, il l'a suivi. Il a vu le gars embarquer dans son char, il a pas intervenu. Il a appelé le 911, il a embarqué dans son char, et il a suivi la personne jusqu'à temps qu'elle soit arrêtée par les policiers. Mais encore là, dans le cas présent, il y a eu un accident avec 4 morts. Si quelqu'un, si mettons un piéton, voyons, il fonce dans le char d'en avant.
Ça marche pas.
Interviens, man. Appelle pas les... Oui, appelle le 911, mais va ouvrir la porte du char. Tu vois bien qu'il y a de quoi, là. Mm-hmm. Il pourrait être en arrêt cardiaque, en ACV, et en état d'ébriété. Mais aller ouvrir la porte de quelqu'un. Tu sais, quand tu regardes, là, tu me parles de 3 minutes et demie d'image. Mm-hmm. Est-ce que les gens sur le trottoir s'arrêtent pour le regarder?
Non.
Le monde ne regarde pas.
On dirait que le monde est trop pressé.
Tu sais?
Oui. Trop gêné d'intervenir.
OK.
Ouais.
Là, il finit par sortir de là.
Finit par sortir de là, puis il embarque sur le trottoir de l'autre côté. Là, ça y prend. Il fait vraiment une grosse manœuvre là, pour réussir à embarquer. Il tourne à gauche tout de suite après l'église sur la rue de la Chapelle. Mais ça, c'est un sens unique de l'autre bord vers le sud. Il tourne vers le nord, lui. Okay. Automatiquement.
Mais
là, le problème, c'est qu'il arrive dans un genre de garage intérieur cul-de-sac et c'est là qu'il se met à ramasser des murets de béton puis des voitures parce qu'il est pas capable de faire demi-tour. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un témoin, si on en est sûr et certain du côté de la police, il y a un témoin qui donne sa plaque d'immatriculation, qui l'a identifié. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment qu'on a une définition claire du véhicule puis que les policiers se mettent à sa recherche. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il réussit à sortir de là. Il passe devant le bar Le Dauphin. Il y a une autre caméra de sécurité où on le remarque encore une fois, omettre complètement de faire son arrêt obligatoire. Il poursuit son chemin, donc il brûle un stop. Il continue plus loin et les autobus du RTC ont une caméra devant dans leur pare-brise. Les policiers reçoivent un appel éventuellement d'un chauffeur du RTC qui veut dénoncer un conducteur qui semble être complètement sous. Et la caméra, on voit, c'est un autre élément qu'on voit durant l'audience. C'est pas très loin du coin Mazeret, École Dominique Savio. L'égaré suit une voiture. Cette voiture-là fait son arrêt obligatoire, mais l'égaré, lui, a décidé qu'il faisait pas son stop et que ça l'énervait. Il dépasse la voiture qui fait son arrêt, mais par la gauche. Donc, il embarque complètement dans la voie sens inverse, à l'intersection où il y a des arrêts de chaque côté. Là.
C'est un 4 stop et lui, il passe à gauche.
Il contourne par la gauche puis il va vite. Là.
Il ralentit même
pas. Tout ça sous les yeux du chauffeur de l'autobus qui était sur le point d'arriver au stop. Il a à peine eu assez d'espace pour permettre au Subaru de passer. Et après ça, les trois séquences qu'on voit coup sur coup, c'est une caméra du MTQ qui le voit passer en dessous du viaduc en route vers Dufresne-Montmorency. Et ce qui est d'une tristesse, c'est qu'on voit les victimes arriver. Il y a un premier véhicule qui s'arrête à la lumière rouge du boulevard François de Laval sur Dufresne. Il y a un premier véhicule qui s'arrête là. 5-6 secondes après, tu as le véhicule des quatre victimes qui, dans sa voie, là, je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours.
Il attend d'évitement pour tourner à gauche.
Totalement. Là. Il y a rien qui laisse présager ce qui s'en vient. Sauf que tu le vois là, dans la caméra. Là. Tu le vois dans la séquence. Il arrive à toute vitesse. Selon les calculs des expertises, il roulait au moins à 130 km/h quand l'électricité a lâché dans le véhicule. 130 km/h.
Qu'est-ce que tu veux dire, l'électricité a lâché?
Quand il n'y a plus aucune donnée qui s'est mis à enregistrer quoi que ce soit, quand le véhicule est tombé totalement mort, selon l'expertise.
Okay, quand il y a un accident, ils sont capables de remonter à savoir quelle était la vitesse au moment de l'impact?
Je pense que oui. Okay. J'ai pas le détail, l'explication, mais avec l'odomètre, on a été en mesure aussi de calculer par rapport à où il était situé, le nombre de kilomètres qu'il a fait. Je sais pas comment, mais l'expertise dit qu'il roulait au minimum, à 130 km/h.
La dernière vitesse, donc, à l'impact.
Fait que il y a des voies qui donc passent droit sur ce chemin-là. Il y a le virage à gauche pour François de Laval. Eux, ils sont complètement dans la voie d'évitement. Mais là, lui, c'est quoi? Il mord dans cette voie-là? Parce qu'il dit ne pas vouloir tourner là.
Non, c'est ça. Techniquement, lui, il continue son chemin parce qu'il dit qu'il se rendait chez eux. Il y a des personnes qui l'attendaient chez lui. Il habite dans le coin de Beauport. Et techniquement, sa trajectoire, lui, c'est de continuer sur Dufresne. C'est pas de tourner sur le boulevard. Et dans les images, c'est clair, là, il est déjà dans la voie de gauche, puis il s'engage dans la voie pour tourner sur le boulevard, mais à toute vitesse. Puis on dirait, encore une fois, ça c'est mon interprétation, mais le gars, depuis le début, depuis qu'il est parti autour de 17h20 du pub du Parvis, tout ce qu'il fait, c'est essayer de contourner les gens. Les gens l'énervent, vont pas assez vite à son goût. Et mon impression, c'est qu'il s'est dit, par la gauche, je vais être capable de passer, puis de revenir peut-être pour dépasser tout le monde puis continuer mon chemin parce que 70-100, c'est pas assez rapide.
Oui, mais la lumière est verte. Pourtant, elle est toujours verte, cette lumière-là.
Oui, elle est verte. L'autre est rouge pour tourner sur le boulevard.
Est-ce que les images que tu vois de l'impact, tu la vois de derrière le véhicule?
Non, on la voit. C'est comme si on était installé un peu plus loin des feux de circulation. Là, on le voit arriver.
Tu le vois arriver.
Il s'en va vers l'est. Okay. Puis on voit les véhicules de haut.
Là. OK, parce que ma question était, si tu avais vu de derrière, j'aurais aimé savoir, est-ce qu'il a touché au break avant de frapper l'autre véhicule?
J'ai pas vu, non.
On le sait pas, ça. Donc, il était à pleine vitesse.
Il y a peut-être d'autres angles de caméra qui permettent de le voir.
OK.
J'ai pas l'impression. Encore une fois, c'est juste des impressions, là. Je suis désolé. Mais au moment de l'impact, on dirait qu'il crampe juste un peu le volant vers la droite pour peut-être essayer d'éviter l'impact. Il est vraiment trop tard, là. De toute façon, à la vitesse où il roulait. Et lors de l'impact, c'est un coup de marteau. C'est
quasiment une explosion. Il s'envoie dans l'autre véhicule.
C'est comme s'il la frappait, puis lui, il dévie un peu. Et son véhicule se ramasse l'autre côté de la ligne d'arrêt du feu de circulation. C'est comme s'il était allé écraser. Les victimes ont eu aucune chance. Ils se retrouvent en souricière. T'as les premiers qui sont sur les freins parce qu'ils attendent à la lumière. Et lui, s'en va écraser le véhicule, mais en tournant un peu vers la droite, fait que le sien s'en va beaucoup plus loin, l'autre côté de la ligne d'arrêt, fait un genre de 180 degrés, et le véhicule des victimes, il est compressé. C'est vraiment l'effet, je pense, dans une usine, là, les espèces de gros marteaux. J'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé, un genre d'étau. C'est carrément dans quoi se sont retrouvées les victimes. Puis là, c'est le moment de silence et c'est le moment où l'avocat de la couronne dit « On va le regarder une deuxième fois. » Puis là, on dirait que ça te donne un coup dans le ventre. T'es comme « Ah, fuck. »
Pourquoi le regarder deux fois?
Pour que le juge soit à même de bien constater. Sur le premier coup, tu comprends pas. T'sais. Puis la deuxième fois, tu regardes peut-être différemment les détails. Justement, ça va être macabre ce que je vais dire, là, mais est-ce qu'on voit quelqu'un être éjecté du véhicule? La première séquence, tu regardes le véhicule des victimes. Puis tu peux pas lâcher les yeux du véhicule des victimes. Puis la deuxième, on dirait que là, tu essaies de dire...
De voir des détails,
bon,
de voir
c'est
un peu
qui
plus.
Se passe. Là, je viens de le voir. Le coup est donné. Là, ce qui est plus douloureux est fait. On va se concentrer sur les détails. Puis là, je pense après ça aux enquêteurs. qui ont passé sûrement la journée à regarder, à écouter cette vidéo-là. Non, c'est pas le fun, pour vrai. Puis tu parlais des journalistes, on s'est consultés, puis on était tous d'accord pour dire que ça donnait rien pantoute de diffuser ça. C'est du sensationnalisme, puis on n'est pas là.
Je suis pas d'accord avec toi. Regarde, tu t'es marqué par ce que t'as vu.
Ouais.
T'essayes de le décrire, tu le décris très bien, mais t'es quand même marqué. Oui. Et je suis convaincu que personnellement, tu vas être encore plus sensibilisé que d'autres par ce que t'as vu. T'as vu la mort en direct. Puis je pense que c'est pour ça que les gens qui voient ça sont, c'est macabre, mais en même temps, le message peut pas être plus percutant que ça, là. C'est pas des comédiens, là. Ça a vraiment été comme ça.
Ton point est bon, Steph, mais est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que la famille ne peut pas peut-être prendre le temps de faire son deuil, puis après ça, pour revenir à l'un des pères, Jean-Dominique Lemieux, qui parle beaucoup dans les médias depuis le début de son deuil, lui, il veut faire beaucoup de prévention. Ça va peut-être venir à un moment donné, mais je pense qu'en tout cas, de mon point de vue, il est peut-être un peu trop tôt pour garocher ça dans le public, puis le monde en fasse ce qu'ils veulent.
Mais tant que le procès n'est pas réglé, je comprends.
C'est ça. Puis à partir de là, ben on verra si les parents et si les proches sont prêts à aller de l'avant avec ça, parce qu'effectivement, ça fait aucun doute que ça marque. Là.
Sa conjointe est décédée, son fils est décédé.
Sa belle-fille est décédée, puis son beau-père est décédé.
Il dit, vous y avez parlé, lui?
Oui, Jean-Dominique Lemieux a accepté, a été très gentil, nous a parlé un peu, il nous a dit comment il se sentait, lui, puis pourquoi il avait accepté d'y aller à la salle d'audience. Il était pas sûr, c'était un 50-50 au début, là. Il était pas sûr d'être là hier, on peut l'entendre.
Je pense qu'on fera pas le passé, malheureusement. Le plus important, c'est pour moi, c'est un peu mon message depuis le début. Si ça peut aider à ce qu'il y ait, malheureusement, des événements comme ça puissent changer les comportements en amont, c'est tout ce que je souhaite. Après, c'est la sentence, les procédures judiciaires. Ça m'importe un peu.
Mais est-ce que vous, dans votre deuil, vous avez besoin d'être ici, de vivre ça? Pourquoi vous êtes ici?
J'hésitais. J'hésitais à être ici ou pas. Évidemment, c'est notre choix d'être ici ou pas. C'était 50-50. Je sais même pas comment répondre à cette question-là.
Vous avez l'impression que ça vous aide, ce que vous avez vécu jusqu'à
présent? Oui, je suis content d'avoir assisté. Je ne savais pas quoi m'attendre avant.
C'est dans le chemin d'avancement, là, c'est ce qu'il fait, le gars. Là. Et je le trouve extrêmement hot quand il dit, moi, la sentence ou tout, ça change. Et c'est drôlement important parce qu'il y a du monde qui trouve que justice n'est pas rendue quand, par exemple, la sentence n'atteint pas les niveaux de prison, d'années qui pourraient être décernés à ce gars-là. Il est pas là. Lui, il a perdu du monde. La perte est déjà faite et il a à vivre un deuil et il s'arrête pas à ce que d'autres personnes, donc la justice, va décider suite à ça. Je le trouve très hot dans sa façon de voir ça, dans son analyse, et très hot aussi d'être présent, des fois, de pas se cacher. La réalité est là, puis il est prêt à y faire face. Je le trouve quand même très hot comme victime de cet accident-là, parce que c'est une victime collatérale directement.
Il est inspirant, courageux, et ce qui nous a fait tomber les épaules aussi, je pense, à un moment donné, parce qu'il y a eu un témoignage des parents d'Éric Légaré, l'accusé, mais lui aussi a témoigné. Puis ce qu'on apprend, c'est que cette famille-là est marquée aussi par l'alcool au volant, Steph. C'est pas des gens qui en ont jamais entendu parler. Je pense, j'ai été marqué aussi par le témoignage des parents d'Éric Légaré, des retraités qui ont mis de l'argent de côté pour voyager, puis qui hier se présentaient. On avait des mots pour la famille des victimes, évidemment. Puis ce qu'ils disaient, c'est que notre fils, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de conciliant. On le reconnaît pas dans cette journée-là, puis on est prêt à tout faire pour qu'il aille mieux, puis à vous donner même 25 000 $ en caution à le déposer.
Je sais bien que ça arrivera pas. Là. Il sera jamais...
Pour le libérer.
On a tout fait ça hier, là. C'était un spectacle. Là. C'est vraiment pour amoindrir. Non. Mais je comprends, mais on sait très bien qu'il ne sera jamais remis en liberté. Ça n'arrivera pas. Parce qu'il y a 3 clauses pour remettre quelqu'un en liberté. Et lui, un, il récidiviste, puis 2, aux yeux de la justice, ce serait inconcevable qu'un gars qui en a tué 4 puisse être remis en liberté. Fait que ça arrivera pas. Mais là, on voulait peut-être... En tout cas, on verra la suite des choses, c'est quand?
C'est jeudi prochain qu'on a la décision du juge. Peut-être préciser où je voulais aller dans mon idée, c'est que la tante de Légaré est une victime. Elle est morte, tuée par un chauffeur.
Okay.
Et la sœur de cette tante-là, donc la sœur du père, s'est enlevée la vie dans les mois suivants parce que c'était trop insupportable pour elle d'avoir perdu sa sœur. Et lui, il en a fait des exposés au secondaire de cette histoire-là. T'sais, c'est de dire que même si t'en as entendu parler de près, t'as été touché, ça change pas grand-chose. Tu le disais, là, pour libération conditionnelle, l'accusé risque de ne pas se présenter au tribunal. C'est un des motifs. Celui de l'accusé doit être détenu pour protéger le public. C'en a un autre. Techniquement, s'il prend pas le volant, on est correct. C'est le dernier où tu t'insistes, là. Si le public serait choqué que l'accusé soit remis en liberté. Puis l'avocat de la défense, pour ça, je te dis, je suis vraiment curieux de voir la décision du juge Morand, puis je termine là-dessus. C'est que dans son énoncé, dans son plaidoyer, l'avocat de la défense fait de la jurisprudence. Donc, il évoque toutes sortes de cas. Puis le premier qui est sorti, c'est lequel? Celui de Guy Turcotte.
OK.
Quand il est allé à son deuxième procès, tu sais, il a été déclaré criminellement responsable pour le meurtre de ses deux enfants. On a recommencé un deuxième procès, puis dans l'attente de ce procès-là, on parle d'un père qui a tué ses deux enfants.
Il avait été remis en liberté.
Il a été remis en liberté. Puis il en a sorti beaucoup des cas comme ça, ce qui fait dire que le juge aura une décision difficile à prendre parce qu'il y avait quand même beaucoup d'arguments du côté de la défense. La réponse, jeudi 9h30.
Good. Merci beaucoup, bel job. Merci. Philippe, merci pour les bangs aussi.